explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, bord à bord à l'Evainé. Tu connais ?
Mais croyez-vous que je puisse regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Cet été, la dernière destination à la mode, ce sont les astéroïdes, en tout cas pour les agences spatiales. Deux sondes lancées il y a plusieurs années, avec en ligne de mire l'un de ces petits corps du système solaire, arrivent à peu près en même temps à destination. D'un côté, il y a la sonde japonaise Hayabusa 2, qui est en orbite autour de l'astéroïde Ryugu depuis le 20 juin dernier et qui nous envoie déjà régulièrement de superbes cartes postales. De l'autre côté, il y a la sonde américaine Osiris-Rex, qui elle n'est pas encore tout à fait arrivée. Elle atteindra Bennu, son astéroïde de villégiature, dans les prochains jours. Pour ces deux engins spatiaux, la mission est loin d'être terminée. Dans les prochains mois, ils vont devoir récolter des échantillons de leur astéroïde en vue de les rapporter ensuite sur Terre. Vous avez aimé les aventures de la sonde Rosetta et du petit robot Philae sur la comète Chury. Vous allez adorer le nouveau feuilleton des Odyssées, des sondes Hayabusa 2 et Osiris Rex.
Le temps d'un bivouac.
Vers l'infini.
Sur France Inter.
Bonjour et bienvenue. Comme tous les jeudis, nous partons en bivouac cosmique, avec pour guide aujourd'hui Patrick Michel et Philippe Hénarejos. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Patrick
Bonjour.
Michel, vous êtes en direct des studios France Bleu Azur. Vous êtes astrophysicien au CNRS, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, spécialiste des astéroïdes. Vous travaillez en lien étroit avec les Japonais sur la mission Hayabusa 2. Et Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, qui consacre dans le numéro de juillet et août un article aux missions Hayabusa 2 et Osiris Rex. Vous allez tous les deux nous expliquer pourquoi les scientifiques se donnent tant de mal pour atteindre ces astéroïdes. Nous verrons aussi si ces missions de reconnaissance pourraient nous aider à trouver une solution si d'aventure un de ces gros cailloux menaçait de s'écraser sur Terre. Et puis à 17h, nous partirons avec un guide qui accompagne des groupes de voyageurs inexpérimentés, enfants, ados ou adultes, dans des régions les plus reculées de la planète. Voilà pour la feuille de route. Cette émission est réalisée par Marion Lelay, préparé par Alexandre Chaune et Sophie Vaux, avec l'aide de Cyrielle Laborde.
6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of OSIRIS-REx, its 7-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back.
La sonde américaine OSIRIS-REx. Décollage pour un voyage de 350 millions de kilomètres en direction de Bennu. Cet astéroïde découvert en 1999 et à la taille impressionnante 500 mètres de diamètre, quasiment deux fois plus massif que la Tour Eiffel.
Nous étions le 8 octobre 2016. La sonde Osiris-Rex de la NASA s'arrachait du sol de Cap Canaveral en Floride pour atteindre l'astéroïde Bennu. Patrick Michel, presque deux ans après être parti, la sonde est sur le point d'arriver à destination. Elle n'y est pas encore tout à fait, mais c'est pour les tout prochains jours.
Oui, oui. Alors c'était le 8 septembre, exactement, c'est pas grave, 2016. Et j'avoue qu'en entendant ça, moi j'y étais, puisque j'ai le privilège, l'immense privilège, d'être membre des équipes scientifiques des deux missions, Hayabusa 2 et Osiris Rex. Et donc je suis allé au lancement avec mon épouse d'ailleurs. C'était un événement familial, parce que ces équipes scientifiques sont des vraies familles. Et réentendre le compte à rebours, la trouille qu'on avait à l'époque quand la fusée s'arrache du sol, et en plus une journée extraordinaire. En Floride, il y avait eu des ouragans avant, il y avait eu l'explosion de Falcon 9 une semaine avant, et là on avait un ciel bleu qui nous attendait, et la sonde est partie avec seulement une seconde de retard.
Ah oui.
Donc c'était vraiment magnifique.
Dans la vie des chercheurs et des astrophysiciens, ce sont des moments forts, parce qu'évidemment ça prend du temps de construire ces sondes, c'est un projet de plusieurs années, puisque la sonde arrive à peine maintenant à destination, donc le moment du décollage c'est crucial, tout peut basculer à ce moment-là.
Mais tout peut basculer n'importe quand. Ouais. C'est ça le spatial, c'est vraiment des aventures à la Indiana Jones, ouais. Parce que à n'importe quel moment, il peut se passer des choses. Que l'espace est très hostile en fait, hein, pour tout ce que l'on fabrique. Alors pour l'être humain encore plus. Mais dès qu'on sort, déjà s'arracher de la Terre, c'est pas trivial, même si maintenant on sait le faire. Et puis après, on est dans l'espace. Il peut y avoir des éruptions solaires, des micrométéorites, etc. Ouais. Et puis on va voir des mondes inconnus. Oui. Donc on va découvrir, comme Christophe Colomb l'a fait avec l'Amérique, alors sauf que là on va découvrir des corps beaucoup plus petits, ouais, que le continent américain, mais on découvre des nouveaux mondes, donc ça veut dire qu'il faut faire des hypothèses pour concevoir la mission, et avec aucune garantie que toutes les hypothèses sont justes. En l'occurrence, heureusement qu'elles ne sont pas toujours toutes justes, sinon on n'irait plus, ça veut dire qu'on sait tout à l'avance.
Et oui, évidemment. Et là, en l'occurrence, l'astéroïde vers lequel se dirige la sonde, on l'a surnommé Bennu, comment il a été choisi, cet astéroïde?
Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que on définit des objectifs scientifiques. En l'occurrence, au départ, l'objectif scientifique, c'est de ramener la matière, ce qu'on appelle la plus primitive. C'est-à-dire que ces objets-là, les astéroïdes en général d'ailleurs, sont tout petits par rapport aux planètes. Et donc, et ce sont les restes des briques qui ont formé les planètes. Au départ, le système solaire, c'était un disque de gaz et de poussière qui tournait autour du soleil à peine formé. Et puis c'est dans ce disque que les poussières ont commencé à s'agglomérer et petit à petit former des corps de plus en plus gros. Certains ont abouti en planète, et puis d'autres, eh bien, n'ont pas réussi à être capturés, et ils se sont parqués entre Mars et Jupiter dans une ceinture qu'on appelle la ceinture principale des astéroïdes. Mmh. Et l'avantage qu'ils ont donc par rapport aux planètes, c'est que ce sont donc les restes des briques, mais comme ils n'ont pas chauffé, parce que les planètes sont grosses, donc elles chauffent comme les jaunes d'œufs dans une poêle, elles se transforment chimiquement, les astéroïdes sont suffisamment petits pour n'avoir pas chauffer, donc avoir gardé la composition initiale de tous les ingrédients qui ont formé les planètes. Mmh. Donc en allant les étudier, on remonte le temps. Et par ailleurs, pour ces astéroïdes-là qu'on a choisis pour Osiris-Rex et Hayabusa 2, on était à la recherche aussi de la matière organique, parce que dans les scénarios que l'on construit du système solaire primitif, précoce, lorsque c'était au début de la formation des planètes, eh bien, dans ces scénarios, on prédit que ce sont les impacts qui auraient pu apporter tous les ingrédients qui ont pu permettre à la vie d'émerger sur Terre.
Ouais, ouais. Ces molécules organiques, ce sont des molécules qui contiennent des atomes de carbone. Hein. C'est ce que ça veut dire.
Ouais. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc, on a choisi, donc la façon dont on fait ça, c'est qu'on regarde dans tous les astéroïdes ceux qui, sur la base des observations depuis le sol, semblent indiquer qu'il y a une chance qu'il y ait cette matière-là. Et ensuite, on choisit les moins chers, parce qu'évidemment, les budgets des missions spatiales, pour être sélectionnés, il faut être en dessous du budget maximal autorisé. Et donc, alors, ce sont les deux moins chers.
Comment se présente l'approche de cet astéroïde Bennu, hein, qui, la sonde est vraiment sur le point de se mettre en orbite de son astéroïde?
Absolument. Alors en fait, donc si on compare Hayabusa 2 et Osiris-Rex, parce que les deux ont le même objectif, ils ont deux approches différentes, c'est le cas de le dire. Hayabusa 2, elle suit l'objet. Elle ne se met pas en orbite autour de lui. C'est parce que les Japonais sont plus confiants à faire ça. Ils avaient fait ça avec une première mission Hayabusa sur un petit corps qui s'appelait Itokawa, de 400 mètres de diamètre à peu près. Donc elle va suivre l'objet. En revanche, les Américains, eux, ont choisi effectivement de se mettre en orbite. Donc on va vraiment s'insérer dans la gravité de l'objet pour tourner autour de lui. Donc, et ça va arriver, l'approche est prévue vers le 17-18 août. La phase d'approche commence, mais les opérations à proximité commenceront plutôt début décembre. Ouais. Mais on commencera à avoir des images bien avant ça.
Philippe Hénarejos, quand on est comme vous, passionné de spatial, journaliste spécialisé dans l'espace, c'est des feuilletons, on prend ça comme c'est du pain béni, ces feuilletons, c'est un peu, on nous refait le coup de Rosetta, de cette sonde qui était partie à la rencontre de sa comète avec Philae qui devait atterrir. Il y a plein de petites étapes, c'est passionnant à suivre.
Oui, grâce à ces sondes-là, on se retrouve à la proue du navire qui part explorer, si vous voulez. Et à chaque fois, on attend le portrait d'abord, et puis les images détaillées ensuite, de nouveaux mondes, comme le disait Patrick Michel, et on voit qu'on a des surprises. Par exemple, pour parler de la sonde Rosetta qui est allée sur la comète Churyumov-Gerasimenko, on avait observé cette comète de loin, le noyau, c'était un point sur les images, y compris pour le télescope Hubble, qui est très puissant et qui est capable de faire des images très précises, mm-hmm. Et comme il tourne sur lui-même, on avait déduit de la courbe de lumière une forme, une vagoforme. Et c'était pas du tout la forme qu'on a trouvée à l'arrivée.
Ouais.
Donc on a eu une surprise. Là, eh bien, on a, par exemple, pour ce qui est de Ryugu, ouais, le premier astéroïde, ouais, donc,
visité par Hayabusa
2, qui est arrivé donc fin juin à proximité.
Ouais.
Le Kidam a eu une surprise, c'est de voir un astéroïde de la forme d'un dé à 10 faces, vous savez, qui, ouais, sert pour les jeux de rôle. Les familiers, ouais, des jeux de rôle verront très bien de quoi je veux parler.
Ouais.
Il a cette forme-là, ça ressemble un peu à deux diamants qui sont collés l'un à l'autre. Patrick Michel nous racontera sans doute que cette forme, ouais, était assez attendue par les chercheurs, mais quand même, pour le grand public, on voit des nouveaux mondes, des, ouais, choses qui n'avaient pas la forme qu'on attendait.
Ouais.
On découvre sans cesse de nouveaux espaces.
Est-ce qu'il y a eu, Patrick Michel, quand même des surprises, hein? C'est vrai que les photos sont assez bluffantes parce qu'on a vraiment l'impression d'y être. Hein. De toute façon, actuellement, la sonde est à 20 km de l'astéroïde Ryugu, donc elle est très proche, elle le voit vraiment de tout près. Est-ce qu'il y a eu des surprises pour vous, scientifiques?
Ah oui, alors la première surprise, bon déjà c'est la première fois dans l'histoire de l'espace qu'on a une image détaillée d'un astéroïde potentiellement riche en carbone.
Ouais.
Ça déjà, c'était déjà, on ne savait pas quoi attendre. Ensuite, sur la base des courbes de lumière, comme le disait Philippe, qui sont quand même très sommaires, on s'attendait plutôt à une sorte de sphère, on va dire. Plutôt sphérique. Et en fait, il a cette forme de toupie ou de diamant collé ensemble.
Ouais.
Ça a été une surprise, alors que, effectivement, on a trouvé ce genre de forme sur la base des observations par les radars terrestres qui nous permettent d'avoir, disons, un peu plus de contraintes sur la forme, mais ça reste quand même des modèles. On trouve ces formes surtout pour les astéroïdes qui sont doubles. Et Bennu, d'ailleurs, qui a été observé par radar, donc la cible d'Osiris-Rex, sa forme attendue est celle de Ryugu. Mais par contre, pour Ryugu, c'était pas du tout celle-là. Donc, c'est,
ouais,
ça qui nous a surpris.
Ouais.
Et donc, on s'est dit, mais c'est encore plus commun qu'on le pensait. Et donc, on s'interroge sur les mécanismes qui permettent de former aussi communément cette forme-là.
Ouais.
Ensuite, évidemment, la grande surprise, c'est le nombre de rochers qu'il y a à la surface.
Ouais.
C'est complètement délirant. Et là, on s'est approché à 1 km, il y a une semaine, pour mesurer le champ de gravité donc l'attraction de Ryugu, hein. Il faut s'approcher très près parce que Ryugu est tout petit. Donc,
ouais,
il a une très faible attraction. Donc pour la ressentir, il faut vraiment s'approcher près. Et justement, parce qu'il a une faible attraction, on ne s'attendait pas à voir autant de rochers sur la surface. Parce qu'en général, sur les hypothèses au départ, tout ce qui est mobile sur la surface, c'est en fait la matière éjectée des cratères qui sont produits à la surface des astéroïdes,
oui,
comme sur la Lune, toute la poussière. Mais là, si j'éjecte du matériel, la vitesse pour m'échapper de Ryugu, c'est à peine quelques dizaines de centimètres par seconde.
Oui.
C'est-à-dire que là, en sautant sur ma chaise en vous parlant, je ne reste plus sur Ryugu.
D'accord.
Donc ça veut dire que... Or, on a énormément de rochers, donc on s'interroge, et ça pose évidemment une difficulté, parce que dans les prochains mois, on va faire une série de choses qui nécessitent qu'on interagisse avec la surface, y,
ouais,
compris d'ailleurs poser le satellite pour récolter des échantillons, et là, quand on voit pour l'instant les images, on se demande où on va aller. Hein.
C'est ça, parce que, alors, on va le raconter dans la suite de cette émission, mais on n'est qu'au début de l'exploration. Pour le moment, on a des photos, alors il y a déjà ces rochers, en tout cas ces cailloux à la surface de l'astéroïde, on ne s'y attendait pas, et maintenant, on va essayer d'y aller. La sonde, mais elle est même équipée. Alors, chaque sonde a ses outils. Il y en a une qui a une sorte de bras de 3 mètres, l'autre un aspirateur, une autre qui a un petit atterrisseur. On va voir dans un instant comment pour ces deux missions vont venir toutes les phases délicates. Les sondes vont prélever des échantillons et les réexpédier ensuite sur Terre. Vous allez nous expliquer comment devraient se dérouler les opérations. Nous sommes en direct et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Nous danserons dessous les bombes, derniers adieux à l'autre monde, dans nos uniformes noirs et or, sur le death floor. Oh,
C'était après le Blitz de Étienne Dao sur France Inter.
Ce qui fait rêver dans cette mission, c'est vraiment l'exploration de mondes inconnus. C'est-à-dire, on va aller se poser sur un objet qui voyage dans le système solaire depuis très longtemps, qui pourrait nous donner des clés sur la formation du système solaire. Et aujourd'hui, on ne sait rien sur cet objet et on espère bien que cet été, quand on s'en sera approché, on en connaîtra beaucoup et que Mascotte va participer à cette connaissance. Tout ça, c'est une collaboration internationale qui est assez formidable et qui vise des objectifs de connaissance globale de l'origine de l'humanité. Et ça, ça fait rêver.
C'était Laurence Lorda, responsable mécanique spatiale de l'atterrisseur Mascotte au CNES. Impatiente de voir se dérouler la suite de la mission Hayabusa 2. Patrick Michel, vous participez à cette mission. Actuellement, Hayabusa 2, on l'a dit, tourne autour de l'astéroïde Ryugu. Et vous et d'autres scientifiques êtes en train de regarder où pourrait atterrir ce petit... Alors comment il faut l'appeler? Cet atterrisseur Mascotte, c'est quoi Mascotte exactement?
Oui, c'est ça. Alors d'abord, je voudrais dire que Laurence et toute son équipe au CNES font un travail extraordinaire puisque c'est eux qui sont en charge de définir des modèles d'atterrissage de ce petit atterrisseur qui fait, c'est une petite boîte hein, de 10 kilos, munie de quelques instruments et en particulier un instrument français Micro-Méga qui va faire en fait de la spectrométrie, de l'imagerie infrarouge de surface à très haute résolution. Donc c'est pour faire des analyses in situ, directement sur place pour pouvoir comparer avec ce qui se fait en orbite. Et c'est un atterrisseur qui est franco-allemand, donc le CNES et le DLR, et c'est effectivement ce que j'aurais voulu dire à un moment donné, mais je le dis tout de suite.
Allez-y.
D'abord, c'est un bonheur extraordinaire d'être dans ce genre de mission. Enfin, on va explorer l'inconnu. C'est vraiment là 2 ans qui nous attendent. Moi, je vais être entre le Japon et les États-Unis, mais c'est le rêve. Deuxième chose, c'est que ça se passe, la coopération internationale, que ce soit Osiris Rex, Hayabusa 2, il y a des gens comme moi qui sont dans les deux équipes, c'est pas une compétition. On est passé de la guerre froide et la compétition à la coopération. On coopère tous et au niveau des scientifiques, je peux vous dire qu'il n'y a aucune frontière. Tout se partage, on a vraiment une volonté de faire avancer la connaissance et même s'il y a des tensions géopolitiques dans le monde, au travers d'équipes scientifiques, ça ne se ressent absolument pas et c'est vraiment une ambiance extraordinaire.
Philippe Hénarejos, ce petit atterrisseur Mascotte, il faut imaginer qu'on va un peu jouer au dé, on va le lancer sur cet astéroïde, puis on va le voir rouler. Et puis il va se stabiliser, c'est comme ça qu'il faut le voir.
Oui, finalement, c'est une histoire de dés, cet astéroïde de Ryugu. Oui. Alors là, on aura un dé à 6 faces, tout simplement. Un peu gros. Hein. Mascotte, ça fait, je crois, 30 cm de côté. C'est un cube, en fait. Il va être éjecté de la sonde principale. Et il va aller se ficher au sol et en faire pof, en quelque sorte. Et on sait quand même que c'est difficile de se poser sur des corps comme ça, qui sont petits et qui ont une très faible gravité.
Oui.
Il faut se souvenir de Philae.
Philae a eu du mal à s'accrocher. Là, on a un cube. Alors, comment il fait pour pas aller
système,
rouler trop loin?
Il y avait un système sur Philae de harpon pour s'agripper, pour pas rebondir, et de moteur qui devait le plaquer au sol. Les deux n'ont pas marché. C'est pour ça qu'il a rebondi. Par la répartition des masses à l'intérieur de ce cube, il va pas rebondir, il va faire un pof.
Et... non, je corrige, Philippe.
Il va pas faire pof.
Non. En fait, j'ai même mon étudiant en thèse, c'est son sujet de thèse, de calculer les rebonds de Mascotte et aussi de modéliser le mécanisme de récolte d'échantillons. Et en fait, on s'attend à des rebonds. Et d'ailleurs, dans le logiciel du CNES, ils tiennent compte de ces rebonds parce qu'en fait, c'est une boîte qui va simplement arriver. Il y a très peu de gravité et on sait qu'elle va rebondir. Et ce qu'on essaie de comprendre maintenant, c'est en fonction de l'état de surface, à partir des modélisations, on regarde quels sont les coefficients de rebond et le temps de rebond. Et puis maintenant, on compare avec les images détaillées de Ryugu pour voir où est-ce qu'on a des propriétés qui semblent minimiser les rebonds. Parce qu'évidemment, il faut à un moment donné se stabiliser, comme le disait Philippe, pour pouvoir faire les mesures. Mais alors... sachant que l'atterrisseur ne dure que 16 heures.
Ouais. Ah oui, il n'a que 16 heures d'autonomie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a lancé, déjà, il faut qu'il ne roule pas trop longtemps, il faut qu'il se stabilise. Alors, quel genre de mesures va-t-il prendre sur cet astéroïde, ce cube, une fois stabilisé, en espérant qu'il se stabilise ?
Alors en fait, il y a bien sûr des caméras, il y a aussi des mesures de thermique, on va dire, des propriétés de température, et puis surtout il y a des mesures de composition grâce à l'instrument Micromega. C'est pour ça que le choix des sites, et c'est d'ailleurs la même chose pour le choix des sites d'atterrissage pour prendre l'échantillon, ouais. Il y a deux paramètres, il y a les paramètres techniques qui sont un peu moins sensibles quand même pour Mascot que pour le satellite qui lui doit revenir, mais quand même, et puis il y a le choix scientifique, c'est-à-dire s'assurer qu'on va à l'endroit qui nous semble le plus propice aux mesures qu'on veut faire.
Est-ce que c'est
et
difficile
on va la semaine prochaine au Japon, d'ailleurs, pour décider, finaliser le choix des sites d'échantillonnage et de l'atterrissage de Mascot.
Alors, Patrick Michel, est-ce que c'est difficile justement de vous mettre d'accord entre les ingénieurs qui veulent pas perdre leur engin, les scientifiques qui veulent aller dans les endroits qui les intéressent le plus ? Est-ce que les débats sont houleux autour de la table de décision ?
Alors écoutez, pour l'instant, je peux vous dire que ça se passe très bien. C'est sûr que c'est des choix compliqués, mais ça se passe dans une très bonne ambiance parce que chacun se respecte. On respecte les contraintes techniques, évidemment, parce qu'on veut pas rater techniquement la chose. Et puis, les techniciens font en sorte de tenir compte aussi des objectifs scientifiques. Avec Hayabusa 2, ça se fait très très bien. Pour Osiris Rex, on a été obligé de faire quand même plusieurs exercices pour se mettre d'accord. D'abord, parce que c'est une beaucoup plus grosse équipe qu'Hayabusa 2. Mais je dirais que pour l'instant, c'est compliqué parce que il y a plein de paramètres et on a des téléconférences et quasiment tous les jours. On va au Japon, on va d'abord au CNES la semaine prochaine, puis ensuite au Japon pour finaliser le choix. Mais tout le monde a envie que ça réussisse et qu'on fasse la meilleure science.
Oui, on imagine, évidemment. Ouais, ça m'étonnerait que dans l'équipe, certains aient envie que ça foire. On vous comprend.
Ben oui.
Alors, comment vous avez prévu de vous organiser ? Parce qu'il y a aussi, alors il y a cet atterrissage, et puis il y a aussi la récupération d'échantillons. Ça, c'est ce qui paraît le plus spectaculaire et le plus délicat, c'est-à-dire qu'il va falloir déjà collecter de la matière et puis ensuite la rapporter sur Terre. Les deux sondes ont des stratégies différentes pour récolter ces échantillons ?
Alors, totalement différentes, effectivement. D'abord, dans le cas d'Hayabusa 2, il y a une série d'événements en plus de la récolte d'échantillons. Un atterrisseur, il y a même un impacteur qui doit faire un cratère, etc. Et peut-être trois récoltes d'échantillons. Dans le cas d'Osiris Rex, pendant 2 ans, on fait de la caractérisation depuis l'orbite. On prend aucun risque, en fait, parce que l'idée, c'est vraiment de prendre les échantillons et une grande quantité. Et c'est là où je veux en venir. C'est dans le cas d'Hayabusa 2, en fait. Dans les deux cas, de toute façon, on ne se pose pas, on reste pas. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle en anglais du touch and go. Ça veut dire je touche et je m'en vais. Ouais. Donc, il faut en 5 secondes avoir récupéré des échantillons. Donc, le problème d'ingénierie, c'est comment est-ce qu'en 5 secondes, on récupère de la matière d'un astéroïde sans savoir au départ quel est l'état de surface. Et donc, on essaie de trouver un instrument qui permet de s'accommoder au plus grand nombre d'hypothèses. Alors, dans le cas d'Hayabusa 2, ils ont choisi une approche qu'ils avaient d'ailleurs tentée avec Hayabusa 1, c'est de faire approcher le satellite. Il est menu d'une sorte de cylindre qui est au bout du satellite. Et quand le cylindre touche le sol, on tire un petit projectile à 300 mètres par seconde. Et dans le cylindre, eh bien, sont éjectées la matière due à l'impact qu'on récupère et qui va se mettre dans la capsule de réentrée de l'atmosphère. Et avec ça, on vise à avoir le milligramme, on va dire, en termes de masse.
Qu'un seul milligramme. Mais alors, Patrick Michel, pardon quand même, mais vous nous dites on ne sait pas exactement de quoi est fait cet astéroïde. C'est quand même très difficile d'espérer. Ça peut être très solide, ça peut être très dur, ça peut être un peu sablonneux.
Absolument.
Donc c'est quand même...
On n'en sait rien. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça le problème, c'est que... Et Mascot va nous aider parce que... Alors, on aura déjà fait le choix du site de récolte, mais bon, ça peut quand même se corriger. Parce que même depuis... Enfin, si je vous montre une image d'un sol, si vous ne le touchez pas, comment vous savez comment il réagit ?
Et oui.
On peut être trompé. Du sable peut ressembler à du matériau solide et vice versa. Donc du coup, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que, ne sachant pas, alors en tirant un projectile, on a fait des expériences dans des vols paraboliques, etc. Bien sûr, avant de préparer, on a vu qu'avec ça, on arrivait quand même, en tirant dans du sable, en tirant dans la roche dure, etc., à récolter au moins le milligramme qui est l'objectif de cette mission. Dans le cas d'Osiris Rex, c'est plus compliqué, et c'est pour ça qu'ils prennent le temps avant de le faire. On vise 60 grammes minimum jusqu'à 2 kilos.
Jusqu'à
là, ça devient compliqué.
Ah ouais, jusqu'à 2 kilos.
Ça dépend de l'état de surface. Ouais. Ouais.
Alors comment on va les ramasser, ces 2 kilos d'échantillons? Ça, c'est beaucoup. Hein, ça reste impérissable.
C'est énorme. C'est énorme, sachant que même avec un milligramme, on fait une science extraordinaire. Mes collègues cosmochimistes, ils peuvent tout raconter avec un milligramme.
Ah oui.
Mais bon, avec 60 grammes, comme il faut laisser 75% aux futures générations, ah oui, et qu'après il y a des analyses en destructrices, c'est quand même mieux. Donc du coup, il pose un énorme cylindre qui va, une fois qu'il touche la surface, pulvériser de l'azote. Et en fait, on va faire un aspirateur à l'envers, c'est-à-dire qu'on va créer un vent.
Ah oui.
Et ce vent va entraîner la poussière dans le cylindre, et selon la cohésion de la poussière, les propriétés mécaniques, on peut avoir de 60 grammes à 2 kilos. Évidemment, vous voyez l'hypothèse de départ dans ce cas-là, ce qui n'est pas le cas dans Hayabusa 2, c'est qu'on suppose qu'on a un matériau qu'on appelle du régolithe, c'est-à-dire un milieu granulaire à la surface de l'objet. Ouais. Si c'est de la roche dure, uniquement de la roche dure, ça marchera pas. Mais on a des bons espoirs qu'il y a du régolithe sur la base des observations qu'on a faites.
Le régolithe, c'est la poussière. On espère qu'il y ait de la poussière. C'est plus facile à décoller pour faire marcher cet aspirateur à l'envers. Philippe Hénarejos, ce serait formidable, hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'inconnus. Hein. On espère que ça marche. Ce serait une première de ramener autant d'échantillons, ou on l'a déjà fait par le passé?
Il y a Hayabusa 1 qui a ramené quelques poussières de l'astéroïde Itokawa.
Très très peu. Quand on a ouvert la capsule de retour, on croyait dans un premier temps qu'elle était vide, puis en fait il y avait des petits microgrammes.
Cette sonde a eu beaucoup de soucis techniques pendant son vol, il y a des moteurs qui sont mis en panne, etc. Donc ça a été quand même assez miraculeux que la capsule puisse être renvoyée vers la Terre avec une cargaison dont on ignorait si elle était là ou pas, avec 3 ans de retard, donc ça a été compliqué. Mais donc il y a eu effectivement un précédent. Là, ce qui est différent, c'est que les astéroïdes, comme l'a dit, je crois, Patrick Michel tout à l'heure, sont de nature différente. Ce sont des corps, a priori, plus primitifs que Itokawa, qui avait été visité par Hayabusa 1. Mm-hmm. Et là, on va commencer à explorer des choses qui nous ramènent 4 milliards et demi d'années en arrière. C'est un peu l'équivalent de ce qu'ont fait les astronautes sur la Lune, mais même la Lune, elle a quand même été modelée par les impacts, etc. Et elle a une histoire géologique, malgré tout. Mm-hmm. Là, ces corps-là, surtout dans la mission Hayabusa 2, où on va créer un petit cratère pour essayer de creuser, finalement. Le cratère, ça sert à faire un trou, pour creuser, pour aller prendre du matériau qui n'a pas été affecté par le rayonnement solaire, les rayonnements cosmiques, ou un peu moins par les impacts, malgré tout, ça doit être le cas, mais un peu moins. On va chercher à l'intérieur de l'astéroïde, pas très profond, mais un peu, pour amener des choses qui sont très anciennes.
Patrick Michel, rapidement, une fois qu'on aura collecté, on espère que tout ça va fonctionner pour les deux sondes, qu'elles réussiront à prélever des échantillons, il faudra encore faire le chemin du retour. Comment vont-elles faire pour rapporter tout ça sur Terre?
Alors effectivement, c'est le défi. C'est, on sait aller quelque part maintenant dans le spatial, mais revenir, c'est toujours compliqué. C'est pour que d'ailleurs Rosetta l'a pas fait, parce qu'il faut que le satellite survive. Donc on ramène le satellite, c'est-à-dire que le satellite revient avec sa capsule à l'intérieur, bien sûr sans mascotte dans le cas d'Hayabusa 2, mais revient avec ses instruments, et c'est à proximité de l'atmosphère qu'ils vont lâcher la capsule de réentrée, qui elle va atterrir, alors en 2020 dans le cas d'Hayabusa 2, dans le désert de Woomera en Australie, comme Hayabusa 1, et en 2023 pour Osiris Rex dans l'Utah, dans le désert de l'Utah. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est pour ça que les satellites doivent impérativement survivre à la proximité et à la récolte d'échantillons, sachant que tout peut être mobile à la surface de l'objet parce qu'il n'y a pas de gravité, et que c'est les panneaux solaires, notamment dans Hayabusa 2, qui alimentent les moteurs électriques qui la font rentrer.
Ouais.
Donc il faut rien casser, c'est ça le grand défi.
Il y a vraiment encore beaucoup d'inconnus, et puis on le voit, hein, il y a encore beaucoup d'épisodes à venir, puisque la série va se terminer en 2023. 2020 pour l'une et en 2023 pour l'autre. Ces astéroïdes sont passionnantes, sont intéressantes. On voit tout le mal que les scientifiques se donnent pour les étudier, hein, Philippe Hénarejos. Ces astéroïdes sont aussi parfois menaçants. C'est les deux astéroïdes là, par rapport à celui qui est tombé sur Terre il y a 65 millions d'années et qui a fait la crise d'extinction d'espèces que l'on connaît, ils sont plutôt plus gros ou plus petits que l'astéroïde qui s'est abattu sur Terre?
Alors là, c'est une colle.
Ouais. Vous avez la réponse, vous, Patrick Michel?
Oui, oui, ils sont plus petits. Celui qui, à l'origine de l'extinction des dinosaures, il faisait à peu près 10 km de diamètre. On a retrouvé le cratère dans le Yucatan, qui fait à peu près 180 km de diamètre. Et typiquement, pour vous donner un ordre de grandeur, la taille d'un cratère, c'est à peu près... la taille d'un cratère, oui, c'est ça, c'est 10 à 20 fois la taille du projectile.
D'accord.
Donc, il faisait à peu près 10 km de diamètre.
Et ces astéroïdes auxquels on est en train de rendre visite, la Bennu et Ryugu, ce sont des géocroiseurs, c'est-à-dire que dans un avenir plus ou moins proche, on va dire assez lointain, il n'est pas exclu qu'un jour ils croisent la route de la Terre et que la Terre se les prenne sur la tête.
Alors, je ne sais pas si c'est moi ou Philippe qui répond.
C'est vous, allez-y.
D'accord. Alors, dans le cas de Ryugu, pour l'instant, on n'a pas dans les calculs d'évolution qu'on fait, mais sachez qu'on est aussi soumis aux incertitudes que la météorologie, où on est précis à 5 jours parce qu'après les erreurs s'accumulent trop. Nous, on est précis à 50-100 ans parce que les perturbations des planètes, à un moment donné, introduisent des erreurs dans les calculs. Donc, pour le coup, pour Ryugu, pour l'instant, on n'a pas de risque. Pour Bennu, il y a une petite incertitude en 2165 parce qu'il va passer près de la Terre, à un peu moins de la distance Terre-Lune. Et selon où il passe entre la distance Terre-Lune, eh bien, au prochain retour, il tape sur la Terre.
Ah oui.
Et pour l'instant, la probabilité est estimée à une chance sur 2700. Mais c'est pour ça que Osiris-Rex a prévu de mesurer un effet thermique qui joue sur la trajectoire de l'astéroïde et qui n'est pas bien pris en compte dans les calculs parce qu'on ne connaît pas les propriétés thermiques de l'objet. Et c'est cet effet-là qui rend les plus grandes incertitudes dans le calcul de l'évolution. Donc on espère qu'en ayant mesuré cet effet grâce à Osiris-Rex, on va pouvoir corriger les calculs et très probablement écarter le risque d'une collision, sachant qu'un objet de la taille de Bennu, 500 mètres, c'est tous les 200 000 ans que ça arrive. Donc oui. On n'aurait pas de chance que ça nous arrive à ce moment-là.
On n'aurait pas de chance, mais c'est jamais de chance quand un astéroïde croise notre route. Quelle solution les scientifiques auraient-ils justement à proposer si un astéroïde menaçait de s'écraser sur Terre? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Hé, il n'était pas là ce truc avant. Et vous avez vu l'aspect du ciel?
Pas de panique, les amis, j'ai un plan!
Ah oui, pour arrêter un astéroïde.
Il faut qu'on aille là-bas et qu'on tâche de repérer ce qui attire l'astéroïde. Une fois qu'on saura pourquoi ça se produit là, on pourra trouver un moyen de l'envoyer ailleurs.
Ce plan est tellement bête que je regrette qu'il ait pas une figure pour le chiffler.
Le temps d'un bivouac sur France Inter.
Des roses de cristal.
Quelquefois pour un rien.
terre, vous chérit l'univers. Comme un enfant de cœur, son Dieu des terres est cher. Loin des bombes et des balles, coulu comme un bébé. Sensuel, on inhale la fumée adorée.
Ah, que la vie est belle! C'était Brigitte Fontaine dans Le Temps d'un Bivouac.
Alors ça, c'est notre anomalie à 16h43. La même anomalie à 16h58. Et ici, l'anomalie à 17h...
Arrêtez de nous bassiner avec vos anomalies! De quoi s'agit-il?
C'est un astéroïde.
Quelle est sa taille?
D'après nos premières estimations, il aurait 97...
Il est grand comme le Texas, monsieur le Président.
C'est cela.
Vous êtes en train de me raconter qu'on ne s'y attendait pas?
Pour les risques spatiaux, notre budget est $1 million. Grâce à cela, on surveille à peine 3% du ciel.
Excusez-moi, monsieur le Président, mais le ciel est vaste.
Il va nous heurter?
Nous le saurons bientôt, monsieur le Président.
Est-ce que vous avez une idée précise du risque?
Le risque?
Il est total, monsieur. C'est ce que nous appelons un exterminateur. La fin de l'humanité. Où qu'il vienne à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie.
Mon Dieu. On peut faire quelque chose?
Extrait de Armageddon, Patrick Michel, spécialiste des astéroïdes. Les scientifiques réfléchissent très sérieusement à ce qu'il serait possible de faire dans le cas où un astéroïde pour de vrai foncerait droit sur nous. Vous participez à certaines de ces études. Quelles solutions sont envisagées à l'heure actuelle?
Alors, d'abord, je vous rassure, il n'y a aucun astéroïde de la taille du Texas qui menace.
On en est sûr de ça?
Ah oui, parce que tous les objets les plus gros, on les connaît tous, ouais, jusqu'à peu près 1 km. 90% pour 1 km, mais tous au-dessus. Et il n'y en a aucun des plus gros que 1 km qui nous menace sur un long terme. Mmh. Donc, enfin, un moyen terme. Long terme, c'est, pour moi, c'est des centaines de millions d'années. Ouais. Au moins jusqu'à 1 million d'années. Donc ça, c'est bon. Alors, par contre, effectivement, on réfléchit à des solutions. Alors, je pourrais vous dire, pour faire court, que sur le papier, il y en a plein qui sont très élégantes et qui ont l'air de marcher. Mais en l'occurrence, pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est à l'étude officiellement et qui d'ailleurs va être lancée. Ouais. C'est la mission. Alors c'est une mission en collaboration NASA Agence spatiale européenne et la composante NASA elle est financée. C'est un projectile artificiel appelé DART qui va taper sur un petit astéroïde en 2022. Ouais. Alors c'est un objet qui fait 550 kg le projectile. Il va taper à peu près 5 km par seconde, donc plusieurs dizaines de milliers de kilomètres heure. Hein, on va fort. Et l'idée c'est de vérifier si avec cette technique là on est capable de dévier l'astéroïde.
Alors c'est un astéroïde, c'est un astéroïde évidemment qui ne nous menace pas, hein, c'est juste un test qu'on fait pour voir si on arrive à le dévier. J'espère qu'en le déviant, on ne va pas après se le prendre sur la tête, il n'y a pas de risque.
C'est une très bonne... Oui, alors c'est très bien que vous me posez la question parce que je l'ai faite trop courte. En fait, on a choisi la petite lune d'un astéroïde double. D'accord. En fait, dans la population des astéroïdes, on a des systèmes Terre-Lune en mini. Mmh. Alors l'équivalent de la Terre fait 800 mètres de diamètre, l'équivalent de la Lune fait 150 mètres de diamètre. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper sur la petite lune pour perturber sa trajectoire autour de son corps central de telle sorte qu'on ne perturbe pas la trajectoire autour du soleil du corps. Vous voyez, c'est justement pour ça qu'on a choisi ça. Mais ce qu'on veut vérifier, c'est si on est capable de dévier. Si on est capable de dévier autour d'un autre corps, on est capable de dévier autour du soleil. Ouais. Et ce qu'on espère, c'est que la composante européenne qui est à l'étude à l'Agence spatiale européenne sera financée par les États membres de l'ESA. Elle sera soumise à financement en 2019 parce qu'elle va permettre de mesurer la déviation investigations produites, de mesurer la taille du cratère et toutes les propriétés physiques de l'objet. Ce qui est essentiel parce que le test de guidage d'un projectile, c'est très bien, mais si on veut pouvoir s'assurer que le test il est complet et qu'on puisse vérifier les modèles d'impact que l'on fait sur Terre, que l'on développe dans les ordinateurs, pour pouvoir après reconcevoir une mission au cas où un objet nous arriverait dessus, il faut avoir toute l'information. Et donc cette mission, je l'espère, côté européen, sera financée parce que c'est notre seul moyen de pouvoir participer à cet enjeu qui est de ce qu'on appelle la défense planétaire, c'est-à-dire comment se protéger de l'impact d'un astéroïde.
Oui, c'est un réel enjeu. En tout cas, cette menace a inspiré bien des scénarios et pas seulement des films catastrophes à gros budget. C'est ce que nous allons voir avec Jérémy Querenet et sa chronique en partenariat avec le CNES, l'Agence spatiale française.
Non, ça va pas du tout,
coupez! Arrête ton cinéma.
L'astéroïde large de 112 km, communément appelé Matilda, va entrer en collision avec la Terre dans exactement 3 semaines. Et nous vous ferons entendre minute par minute le compte à rebours jusqu'à la fin des temps. Ainsi que toutes vos chansons préférées sur Q107.2.
Des émeutes et des exodes, des discours devant la Maison Blanche, des missiles envoyés dans l'espace, et Bruce Willis qui fait des blagues. Voilà ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma quand il est question de la chute d'un astéroïde sur Terre. Aux côtés des virus, c'est l'une des causes les plus fréquentes de fin du monde dans les films catastrophes. Mais c'est un ressort scénaristique tellement fort que l'on retrouve aussi des astéroïdes dans d'autres genres cinématographiques, et c'est parfois étonnant.
J'ai peur.
Je suis malade d'amour pour toi, Penny.
Par définition, la morale des comédies romantiques, c'est que l'amour s'impose toujours, même quand tout s'y oppose. Malgré les différences, les conventions, et même si c'est pas vraiment le bon moment. La belle idée du film, jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, c'est de proposer une comédie romantique au rythme du décompte fatal de l'arrivée d'un astéroïde géocroiseur. Tout le monde cherche à retrouver les siens, à passer ses derniers jours avec les gens qui ont vraiment compté, et pas tellement à faire de nouvelles rencontres. A-t-on envie d'écouter le récit d'une vie inconnue? A-t-on la patience d'apprendre à se connaître? A priori non, et finalement, oui pour nos héros. Pourquoi ? Eh bien parce que l'amour s'impose toujours.
Chérie, ça va être l'expérience la plus extraordinaire de toute notre vie. Elle va arriver dans 5 jours et elle ne va pas nous heurter. Chérie, fais confiance aux scientifiques.
Quand on parle de météorites au cinéma, on pense plutôt à des films hollywoodiens et commerciaux et pas vraiment à des films d'auteurs danois habitués à des sélections cannoises. Mélancolia est donc une exception. Ce film de Lars von Trier met en scène les derniers jours de la Terre vus d'un château où sont reclus les membres d'une famille. Pour être exact, c'est pas vraiment une petite météorite que la Terre va se prendre de plein fouet, mais une grosse planète. Mais l'idée est la même, celle d'une fin du monde annoncée et inévitable.
J'arrive pas à respirer.
Calme-toi, calme-toi. Détends-toi, Claire, c'est normal, elle trouble forcément notre atmosphère. On va être essoufflé pendant un petit moment.
Véritable huis clos, Mélancolia nous propose d'observer de près le comportement des personnages. Il y a le père, scientifique rassurant, qui ne cesse d'observer la planète et de la prendre en photo, mais qui finalement ne supportera pas de la voir se rapprocher. Sa femme, jouée par Charlotte Gainsbourg, qui s'occupe avec courage de toute sa famille, mais qui finira par lâcher, littéralement même, lâcher la main de son fils à la fin pour se replier sur elle-même. Et à l'inverse, sa sœur, interprétée par Kirsten Dunst, habituellement perdue et dépressive, va aborder la fin du monde avec plus de sang-froid et de résignation que les autres.
Les organismes étaient en sommeil dans l'espace, il y a eu collision avec notre atmosphère et bang !
Dans Mélancolia, comme dans les films catastrophes, le choc des planètes reste donc synonyme de destruction et de mort collective. Mais parfois, une météorite peut, à l'inverse, être porteuse de vie et un bon moyen de transport pour les extraterrestres. C'est le sujet très scientifique d'une comédie, par ailleurs régressive et grossière, Évolution, avec David Duchovny et Julianne Moore. Dans le cratère creusé par une chute de météorite en plein désert américain, la vie va apparaître. D'abord des êtres unicellulaires, puis plus complexes, des champignons, des nématodes, des poissons, des dinosaures, des singes. Bref, une version accélérée et un peu foutraque de la vie sur Terre.
En 2 jours à peine, ils en sont là où il nous a fallu 2 milliards d'années.
Ouais, ces petits germes ont carrément tout compris au rêve américain.
Nous nous sommes tous déjà posé cette question aussi naïve qu'inutile. Je ferais quoi si je gagnais au loto ? Eh bien, c'est un peu la même chose, mais en version apocalyptique, que l'on peut faire en invoquant un astéroïde qui approche de la Terre. Je ferais quoi de ces derniers jours ? Le cinéma s'est souvent emparé de cette question et les réponses peuvent aussi bien alimenter des mélodrames, des comédies romantiques ou des films catastrophes. Mais une chose est sûre, moi, je suis pas sûr d'avoir le courage de Bruce Willis.
Cet astéroïde nous en veut !
C'est normal, on veut le détruire !
Quelle modestie, ce Jérémy Querenet. Merci Jérémy, et à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver la chronique de Jérémy Querenet et d'autres infos complémentaires sur le site du CNES, l'agence spatiale française dont nous sommes partenaires, cnes.fr. Alors c'est vrai que ces astéroïdes, on les préfère dans les films, on n'a pas envie de les voir arriver de trop près. Philippe Hénarejos, serait-il possible qu'un astéroïde ait échappé à notre surveillance et déboule du jour au lendemain dans notre trajectoire?
Alors c'est une bonne question, parce que en matière de protection, la première des choses à faire, c'est de surveiller l'espace.
Ouais.
Et il y a donc des télescopes qui le font déjà, et il y en a d'autres qui sont en construction, plus gros, qui vont scanner le ciel régulièrement à la recherche de nouveaux astéroïdes. Ça dépend. Pour répondre à votre question, ça dépend de la taille, en fin de compte. Ouais. Des gros, comme l'a dit Patrick Michel, c'est fini, on les connaît. On a des télescopes qui ont scanné tout le ciel, qui sont capables de voir des objets d'une certaine taille. A priori, ce serait bien le diable, ou alors il faudrait que ce soit un objet venu d'ailleurs, comme le fameux Oumuamua, qui a traversé le système solaire.
Qui était finalement plus une comète qu'un astéroïde.
Voilà, mais il faut quand même, les chances sont infinitésimales, ça n'arrivera pas. Par contre, il faut continuer à chercher les objets les plus petits qui font 10, 20, 30, 40 mètres, 50 mètres.
Qui pourraient déjà faire pas mal de dégâts.
Mais oui,
quand même.
On a vu en 2013, il y a un objet dont la taille, je crois, était estimée à une trentaine de mètres, qui s'est désagrégé en altitude au-dessus de la Russie. Ça a fait un gros bang, une grosse explosion. Heureusement, c'était loin, ça a cassé toutes les vitres. Il y a eu quand même 1000 blessés.
Ouais.
Donc, il y a des objets comme ça qui, localement, peuvent causer des dégâts, et c'est pour ça qu'il y a des télescopes, le Large Synoptic Survey Telescope, notamment à Hawaï, je crois, qui est, je ne sais pas si c'est Hawaï ou au Chili, mais ça m'échappe maintenant.
C'est au Chili, nous précise.
Qui fera 8 mètres de diamètre et qui sera capable de regarder tout le ciel à la recherche de ces derniers objets qui sont les plus petits mais aussi les plus nombreux.
En tout cas, ça fait une bonne raison de les étudier de près, ces astéroïdes. Et puis nous allons évoquer dans la suite de cette émission la possibilité que l'homme mette un jour le pied sur un astéroïde. Et nos invités répondront bien sûr aux questions que vous leur avez adressées sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa.
C'était Mes Boys, IBI et Lamala sur France Inter.
Il s'appelle JO25, CG2 ou PA7. Des astéroïdes suivis de près par toutes les agences spatiales. Leur spécificité, ils passent régulièrement à quelques encablures seulement de la planète Terre. Et c'est sur ces astéroïdes que des explorateurs un peu précurseurs espèrent un jour trouver de l'eau ou du minerai. En commençant par un astre beaucoup plus proche de nous. Notre grand projet, c'est de lancer l'industrialisation de la Lune. Nous voulons rendre possible le développement économique de tout le système solaire. Et pour ça, il faut pouvoir utiliser les ressources extraterrestres, aussi bien au bénéfice de l'humanité sur Terre qu'en vue de son expansion dans le système solaire.
Selon les experts, un seul des 11 000 astéroïdes qui croisent à proximité de la Terre pourrait contenir plusieurs centaines d'années de la production actuelle de platine.
Extrait d'un reportage de TV5 Monde, on y entendait Denis Vingo, ingénieur fondateur de la société SkyCorp, une société avec des visées, on l'a entendu, très futuriste. Nous faisons le tour des astéroïdes avec l'astrophysicien Patrick Michel et le rédacteur en chef de Ciel et Espace, Philippe Hénarejos. Et cet extrait me donne l'occasion de poser la question que nous envoie Pascal. Exploiter les ressources minières telles que les métaux des astéroïdes est-il un projet réaliste? Quels seraient les métaux et minéraux qui pourraient nous être utiles? Philippe Hénarejos.
Alors, il y a sans doute des minéraux qui sont intéressants sur les astéroïdes. Le problème, c'est qu'il faut d'abord les cartographier, les connaître. On n'en est encore pas à les explorer. Il faut savoir s'ils sont exploitables. Et si d'aventure c'est le cas, on peut imaginer du fer, du nickel, des choses comme ça. Il faut savoir quoi en faire. Ramener ces choses-là sur Terre, c'est imaginer ramener des camions ou des super tankers, ouais, ou des choses comme ça, et on ne sait pas faire.
Ouais. Il va falloir
retraverser l'atmosphère.
C'est ça va coûter plus cher en énergie la richesse qu'on va apporter.
Si un jour exploitation il doit y avoir, à supposer que ces minéraux soient exploitables, c'est sans doute pour l'espace, pour l'exploration de l'espace au-delà de l'orbite terrestre.
C'est ça. Alors finalement, Patrick Michel, ces astéroïdes, il faut peut-être les voir comme des points de relais, des pompes à essence, des stations-service pour des futures explorations spatiales, ce serait envisageable ça ?
Oui, alors c'est ça l'idée. Effectivement, ramener sur Terre Osiris Rex, $1 milliard, 60 grammes.
Voilà.
Donc, comme on dit en anglais, le business plan, je le vois pas là.
En plus,
et puis il y a une autre chose, sans être économiste, si je ramène tout le platine des astéroïdes, le cours il va chuter parce que du coup c'est plus un métaux rare. Ouais. Et donc, ça va coûter encore plus cher. Non, l'idée c'est d'utiliser comme station-service, et c'est un projet sérieux parce que le Congrès américain et le Luxembourg, avec qui d'ailleurs je travaille là-dessus, ont passé une législation pour permettre l'exploitation des astéroïdes, parce qu'effectivement, l'idée, c'est bien sûr pas pour demain, c'est sur le long terme, et les politiciens, notamment au Luxembourg, avec qui je discute, comme Étienne Schneider, sont bien conscients le vice-premier ministre, sont bien conscients des grands défis qu'il y a, mais ils commencent à se préparer avec toutes les étapes qu'il faudra faire. Comme le disait Philippe, on commence à peine à les explorer, on en a 4 en tout géocroiseurs qu'on aura exploré après la fin d'Osiris Rex et Bennu, et encore même pas touché. Donc il suffit pas de les explorer, il faut savoir comment la surface réagit, et l'idée c'est aussi de savoir comment on peut fabriquer de l'eau, extraire des matériaux qui permettent de d'avoir de l'oxygène, d'avoir de l'hydrogène pour pouvoir faire des stations-service. Ouais. Et il y a plusieurs étapes à franchir, mais comme le disait Jean-Jacques Dordain, l'ancien directeur de l'Agence spatiale européenne, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper, parce que c'est pas au moment où on en aura besoin qu'il faudra commencer à se préparer. C'est comme pour l'histoire des impacts d'astéroïdes. Maîtriser ces techniques-là, c'est compliqué, ça prend des décennies, et donc il faut commencer, et les premiers qui sauront le faire, évidemment, pourront en faire quelque chose d'économiquement viable.
Patrick Michel, en 30 secondes, Émilie vous demande, pourrait-on envoyer une ogive nucléaire sur un astéroïde? J'imagine dans l'idée de les dévier, hein, pas pour le plaisir d'envoyer une ogive nucléaire. Est-ce que ça peut être une solution?
Alors effectivement, c'est une solution de dernier recours. C'est pas pour taper l'astéroïde, mais c'est pour faire une explosion à distance, et en fait les rayons X émis vont vaporiser la surface. Évidemment, aucun test ne peut être fait, c'est interdit par les traités internationaux. C'est simplement quelque chose qui est étudié par de nombreuses équipes, uniquement sur le papier, au travers de simulations, et évidemment ça n'est pertinent que si on a un objet plus grand que 1 km,
merci.
Ce qui est une faible probabilité, ou alors en tout dernier recours, mais c'est pas envisagé en tous les cas en termes de test.
Merci Patrick Michel et merci aux confrères de France Bleu Azur où vous étiez en duplex. Et merci à vous Philippe Hénarejos, le dernier numéro de Ciel et Espace qui a pour thème central Mars. Mais on y trouve un article sur l'émission Hayabusa 2 et Osiris Rex. Et les articles sont accessibles gratuitement sur le site internet. Vous êtes oui, open bar pendant l'été.
La partie payante de notre site est gratuite pour le mois d'août.
Voilà, qu'on se le dise, sur Ciel et Espace, on peut se régaler, c'est gratuit pour tout le mois d'août. Je vous présente notre invité de la deuxième heure, Ismaël Khelifa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un aventurier, un grand voyageur aventurier, mais pas un aventurier solitaire. Vous emmenez les petits, les grands dans les coins les plus reculés de la planète. Vous allez nous raconter ça dans un instant.